Le voleur de panda par Alain Surjet, troisième cassette, première face, page 87. Chapitre 7, le camp du dernier soir. À l'aube du lendemain, le vent était tombé. Des cirrus traînaient dans le ciel, le faisant ressembler à un tableau mal essuyé qui aurait gardé des traces de coups de chiffon sur de la craie. La lourde porte du monastère se referma. Son claquement résonna comme un coup de gong. L'air vif revigorait Lifong. Tout juste sorti du sommeil, le visage raide et les yeux embrumés par des larmes de froid, il était juché sur un âne gris qui clopinait sur le sentier. Deux, trois coups de baguette le persuadèrent de forcer l'allure. Li tenait par la longe un mulet chargé de tout leur équipement. Puis venait un autre mulet, la caisse du panda solidement fixée sur son dos. Enfin, Ming, le fusil en bandoulière, monté sur un grand âne anormalement docile. Les sabots glissaient sur les pierrailles, les bêtes renâclaient dans les montées. Le soleil levant poussait leurs ombres devant eux. Le garçon commençait à se faire à l'aventure. Si le cavalier de la veille ne pouvait pas les suivre en traversant le monastère, il mettrait un tel temps à contourner la falaise qu'ils ne retrouveraient plus leurs traces. Mais quelle raison les moines avaient-ils de protéger un voleur de panda ? Ming n'était peut-être pas le vilain bonhomme qu'il s'était imaginé. L'enfant eut un pincement au cœur en songeant à son père, mais savoir qu'il connaîtrait bientôt le secret du voleur excitait sa curiosité. Et il gardait le ferme espoir que Ming le ramènerait à Chongqing comme il l'avait promis. Au début, il s'était juré que sitôt libre, il courrait le dénoncer à la police, mais à présent, il ne savait plus trop. Il ne put s'empêcher de sourire en pensant à ses camarades rivés sur les bancs de l'école, tandis que lui s'éloignait du Sichuan, le bassin rouge de ses ancêtres. Il se retourna sur sa selle et lança à l'adresse de son compagnon. « Jamais un membre de ma famille ne s'était aventuré aussi loin à l'ouest. Ça me fait un peu peur, mais en même temps, je me sens fier. » Le vieil homme se contenta de hocher la tête. Au milieu de la journée, Ming dirigea la petite troupe vers un massif de conifères et de bouleaux. Il commanda à Lifong de continuer sous le couvert des arbres, puis se cacha afin de surveiller la piste. Quand il jugea que l'enfant avait pris suffisamment d'avance, et comme aucun suiveur n'apparaissait, il quitta son abri et se hâta de rejoindre le garçon, non sans jeter de fréquents coups d'œil en arrière. Li l'accueillit avec un large sourire. « Tu vois, je ne me suis pas enfui. »«
C'est bien, » reconnut l'autre. « Mais où serais-tu allé ?»
Il marchait sur un parterre de feuilles et d'épines, la tête emplie de senteurs nouvelles. C'était un mélange d'odeurs de champignons, de moisis, de résine et d'humus. Les sabots plongeaient dans la mousse, faisaient crisser les feuilles sèches, froissaient les fougères. Ils rencontrèrent plus tard un groupe de villageois qui surprirent Li par leur petite taille. Les hommes avaient les traits durs, marqués par le rude climat montagnard, et avançaient, ployés sous des charges de fagots qu'ils apportaient aux moines pour l'hiver. Les deux fils se croisèrent en silence, sans un mot échangé, pas même un coup d'œil en biais pour s'assurer de l'intention de l'autre. Seul l'enfant se retourna pour les regarder se fondre entre les troncs. À l'approche du soir, Lifong serra une couverture sur ses épaules car le froid était beaucoup plus mordant que dans la vallée. Ming établit le campement dans une étroite clairière, attacha les animaux à des piquets qu'il enfonça profondément dans le sol, puis aida le garçon à monter la tente. Ils évitèrent de faire un grand feu à l'extérieur, se contentèrent, pour cette première nuit, de croquer quelques pommes et d'avaler un épi de maïs cuit de la veille. Le bonhomme avait expliqué qu'il ne voulait pas prendre le risque de signaler leur présence de loin. Lifong n'arrivait pas à dormir. Le sol était dur malgré la couche de feuilles amassée sous la natte et l'enfant, instinctivement, cherchait le balancement de l'eau sous son corps. Surtout, il y avait les bruits de la forêt, des craquements de branches, des crépitements sur les écorces, des poursuites dans les ramées. Et puis, une course plus lourde, tout près. Lee glissa sous sa couverture, essaya de surmonter son inquiétude en se persuadant qu'il vivait une grande aventure. Aucun de ses camarades d'école ou de rue ne pouvait se targuer d'avoir passé une nuit dans la forêt, la vraie forêt, très différente des bois où son père l'emmenait parfois pendant ses jours de congé. Les forêts promenades autour des villes n'abritaient plus rien de sauvage, hormis les écureuils. Et encore, ils venaient manger dans la main. Ici, c'était... Le garçon se sentait tout petit, écrasé, digéré par la nature. Un hurlement soudain. L'enfant se redressa comme un ressort. Les bêtes ennemies ruèrent, secouèrent leurs entraves. Le panda se mit à gratter furieusement le sol de sa cage.
« Ce n'est rien, » marmonna le vieil homme. « Quelques loups solitaires qui adressent un salut à la lune. »«
Un loup ? Il est loin ?»«
Non, il rôde autour. Mais s'il a pris le risque de signaler, c'est qu'il n'a pas l'intention de se frotter à nous. »«
Ouais, » bougonna Lee en se glissant sous sa couverture. « À moins qu'il n'ameute sa meute. Tu as bien ton fusil ?»
Il garda les yeux ouverts dans le noir et reprit. Quand même, il doit être sûr de lui pour hurler comme ça. Il ne craint pas les chasseurs.
Ning soupira, roula sur le côté, dos tourné à l'enfant. Il sait ce qu'il fait. Dors maintenant.
J'y arrive pas.
Alors compte le nombre de pommes de pin qui tombent sur la toile.
Pendant une semaine, se dirigeant toujours plein ouest, ils traversèrent la forêt. Elle s'interrompait parfois brutalement, coupée par un ravin qu'il fallait longer avant de trouver un passage. C'était souvent une plateforme de rondins jetée au-dessus du vide et maintenue par un système de cordes. L'homme, alors, faisait franchir ses bêtes une à une afin d'éviter un trop fort balancement du pont. Puis, la colonne se reformait, repartait à la queue leu-leu, au pas lent de ses ânes. Une fois par jour, Ming conduisait sa troupe au bord d'un petit cours d'eau, affluent du Minjiang, pour y refaire provision d'eau.
« Pourquoi on ne suit pas la rivière ?» s'étonnait l'enfant. « On perd du temps à se faufiler entre les arbres. »«
Je veux éviter les villages. Nous sommes beaucoup plus vulnérables que lorsque nous voguions sur le Yangtze, » dit Ming. « On ne passe pas inaperçu dans la montagne, même si les gens font mine de ne pas s'intéresser à nous. Il serait faux de croire que nous les laissons indifférents. »
Le vieil homme fut obligé, au cours des jours suivants, d'aller se réapprévisionner sur les marchés, mais il s'y rendait toujours seul, s'entourant d'infinies précautions. Un matin, enfin, la forêt s'arrêta. Lee laissa errer son regard sur le paysage en dents de scie devant lui. Les pics se dressaient tels les pointes d'une couronne. C'était un bouleversement de blocs érigés les uns sur les autres, des pyramides de roches nues amoncelées dans un désordre savant. Le ciel virait au bleu liquide, translucide, à tel point que Lee crut qu'il reflétait les cimes. La montagne se poursuivait par une autre chaîne au-delà qui dominait la première ligne de sommet.
C'est beau, dit l'enfant en découvrant la pureté de l'azur. J'ai l'impression d'avoir changé de monde.
L'eau coule vers les hommes, dit Ming, mais la montagne conduit aux dieux.
On va monter là-haut ?
Le garçon regarda le vieil homme et vit que ses yeux riaient.
« Je comprends tout !» s'écria-t-il soudain. « Tu veux passer par le Tibet ? Voilà comment les pandas quittent la Chine !»
Il fixa à nouveau les sommets et répéta « Le Tibet !» Il se sentit vaciller sur ses jambes.
« Mais ce n'est pas vrai ! Dis-moi que ce n'est pas vrai ! Rien que d'y penser, j'ai les genoux qui se brisent !»«
Allons !» dit Ming.
en claquant sa baguette sur la croupe de son âne. Lee planta ses talons dans les flancs de sa monture. Le baudet en eut un frémissement d'oreille. Un second coup lui arracha un braiement indigné. Un troisième, enfin, lui fit reprendre la marche.
« le Tibet, ronchonnait l'enfant, ce sont des yaks qu'il nous aurait fallu. »
Des yaks, tu sais, Y-A-C-K et un S au pluriel, ce sont des espèces de bœufs très poilus, courts sur pattes, qui vivent dans le Tibet. Et puis, oh, le bruit des sabots sur les pierres étouffa ses remarques. Ils disparurent derrière un promontoire, sans se rendre compte qu'au-dessus d'eux se profilait la silhouette du mystérieux cavalier. La forêt avait fait place à la steppe. C'était un bosselement d'herbes rases, jaunies par l'été, car les pluies de la mousson s'arrêtaient au plateau. Des rhododendrons, des chardons, des pavots achevaient de mourir, desséchés, à l'ombre de bouleaux qui se dressaient çà et là, de plus en plus isolés. Seules les bruyères fleurissaient, truffant les pentes de petits cônes mauves et blancs. Un vent froid soufflait des montagnes, plus sec, plus tranchant, apportant les premiers frissons de l'hiver. Lee stoppa tout à coup sa monture. « Non, dit-il, non, c'est impossible. On ne peut pas franchir le Tibet en hiver. On n'est pas équipé. Et puis je veux rentrer chez moi. »
« Tu es monté jusqu'ici pour demander à redescendre, » dit Ming. « Tu m'as suivi depuis tant de jours pour n'aspirer qu'à retourner. Qu'as-tu appris avec moi ?»«
Que... » L'enfant ne savait pas trop. « Que tu es peut-être un homme bon ?»«
Pourquoi dis-tu cela ?»«
Je ne sais pas. Parce que tu ne m'as pas tué, parce que tu me laisses libre. » Parce que tu t'inquiètes de moi, même si tu ne veux pas le montrer. Mais je suis fatigué maintenant et je veux revoir mon père. Pense à sa peine, là, en bas.
Il n'est plus à quelques jours près, rumina le vieux.
Quelques jours? Tu veux traverser le Tibet en quelques jours?
Mais qui t'a parlé de se rendre au Tibet? Mais ai-je mentionné cela, moi?
Non, je croyais, comme la montagne est juste devant.
Allons, dit Ming, si ton âne veut bien me suivre. Ils repartirent.
Alors où on va?
Là, fit l'homme en désignant l'ouest jusqu'aux couleurs du soir. Ils découvrirent peu après un grand rassemblement de Kyang. K-I-A-N-G-S. Je ne sais pas ce que c'est. Tu en sais autant que moi, ou plutôt tu en sauras autant que moi quand tu auras entendu la suite. On dirait de petits chevaux, remarqua Lee.
Ils se préparent à émigrer vers les steppes du nord, dit Ming.
Mais pourquoi? Il y fait beaucoup plus froid.
C'est vrai, mais il y a davantage de neige. Dans un mois, les cours d'eau seront tous gelés dans la montagne.
Ah! Ainsi ils lécheront la neige, termina Lee. Compris. Et ces trois aigles qui tournent depuis un moment dans le ciel.
Ils surveillent les Kyang, sachant d'instinct qu'il y aura des faibles, des blessés à la traîne, qui finiront sous leur bec et leur serre.
Le garçon resta un moment à contempler cette grande vague de dos brun qui ondulait dans la steppe. Quelques Kyang s'échappaient parfois de la masse pour courir vers les isolés et les ramener vers le troupeau. Lee distinguait alors l'éclair blanc de leur poitrail. Ming le tira de sa contemplation.
Presse-toi. Si les mâles regroupent les imprudents au beau milieu de la journée, c'est que les loups ne sont pas loin.
Ils vont attaquer ? S'étrangla l'enfant.
Sans attendre de réponse, il piqua son âne au trot. Le vieil homme le rattrapa au prochain carré de chardon, rit de le voir s'énerver, à planter les talons dans les flancs du baudet, sans résultat aucun.
Tu as peur, n'est-ce pas?
Lee tirait sur ses rênes pour faire lever la tête à l'âne. En vain. L'animal ne daigna bouger que lorsqu'il eut fait son affaire des chardons. Ming reprit. C'est comme l'autre nuit. Tu n'en as pas fermé l'œil d'imaginer le loup à proximité. »
L'enfant leva sur lui un regard stupéfait et dans un filet de voix. « C'était donc pas vrai ?»
Le bonhomme plissa les yeux dans une grimace de rire. « Si, la nature est dangereuse, mais pas autant que la ville. Rassure-toi, ce n'est pas après toi que les loups en ont.
Bah, qui sait, s'ils sont capables d'attaquer un aussi grand troupeau, ils vont renifler nos traces, c'est sûr.
Ce n'est pas encore l'hiver, ils ne souffrent pas de la faim. Ils agissent comme les aigles, observent les kiangs et vont les suivre. Les loups aussi vont se déplacer vers le nord. »
À l'halte suivante, Ming fut obligé de nourrir le panda avec de la bouillie de riz, car il ne restait plus de maïs. Cela faisait plusieurs jours qu'ils avaient dû jeter les pommes, car elles commençaient à pourrir. Li s'inquiéta de la diminution de leurs réserves, mais le vieil homme lui annonça :
« Ce soir, nous atteindrons un village d'éleveurs, dont le chef est un ami. »
« Des bandits, » pensa Li. « C'est là que le voyage se termine. » Il continua d'avancer vers le soir, la peur au ventre. Il vit d'abord une coulée blanche descendre le versant, s'arrêter, se gonfler en instant. Puis les cavaliers s'ouvrirent en éventail autour du troupeau, couvrant le tumulte des bêlements.
Couvrant le tumulte des bêlements par des coups de sifflet stridents, des ordres secs, aboyés.
Hé là, hé, hé, oh là, oh, oh, et tio, tia, 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 oh.
Et si... Li se déhancha pour se pencher à l'oreille du vieil homme. Et si c'était un de ceux-là qui nous avait surveillés sur le Yang?
Impossible, répondit l'homme. Je les connais tous.
Mais l'autre, tu n'as pas pu le reconnaître de si loin. Qui sait si ce n'est pas... Ming le coupa tout de suite.
Non. L'autre avait quelque chose de différent.
Le vieux hésita.
Il dégageait quelque chose de...
Il faisait peur, avoua-t-il enfin.
Bon, pas plus qu'eux, souffla l'enfant. « Il me faisait peur à moi, » rectifia le vieux d'un ton plus ferme. « Et je sais de quoi je parle. »
Un cavalier remarqua les arrivants. Il cria quelque chose aux autres. Ils relancèrent le troupeau dans un grondement de sabots qui fit trembler la terre. Au pas lent de sa monture, l'éleveur s'approcha de Ming, un large sourire éclairant son visage.
« C'est Tao,
T-A-O, » dit le vieux.
« Mon neveu. »«
Ah bon ?» laissa échapper le garçon. « Tu es aussi... »«
Un loup des steppes, oui. »«
Je comprends. »«
Oh non, tu n'as encore rien compris. »
Tao portait un long manteau de laine serré à la taille, un pantalon de peau et des bottes. Il était monté sur un petit cheval trapu à la crinière et à la queue très longue et touffu. L'exacte réplique des chevaux de Mongolie, M-O-N-G-O-L-I-E.
Niu Kwa t'a laissé passer, dit-il en ouvrant sa main en signe de bienvenue.
N-I-U, trait d'union, K-O-U-A. Tu sauras tout à l'heure qui c'est.
Elle m'a fait aussi cadeau d'un petit poisson, répondit Ming avec un léger rire.
Je ne demande rien puisqu'il t'accompagne, dit Tao. Il trouvera hospitalité et nourriture sous mon toit. Tao alla tapoter la caisse du plat de la main, puis lança sa bête au galop pour rejoindre les autres cavaliers. Li Fong comprit qu'ils étaient de connivence. À son air, l'éleveur savait exactement
ce que comptait la caisse.
Qui est Niuqua ? Demanda Li pour dire quelque chose.
La déesse des eaux, dit Ming. Si elle te protège, rien ne peut arriver sur le Yangtze. Niuqua même, c'est pourquoi je peux aller et venir à mon gré sur le fleuve bleu.
Oh ! Fit le garçon sans grande conviction.
Le village consistait en trois cabanes en planches, recouvertes d'un toit de tourbe et de deux tentes circulaires, sortes de yourtes, Y-O-U-R-T-E-S. Les yourtes sont des sortes de tentes qu'on a notamment dans les pays d'Asie centrale, enveloppées de feutres et de toiles imperméables. Outre les habitations, il y avait des enclos délimités par des barrières en bois, les uns pour les moutons, les autres pour les chevaux. Plusieurs tas de foin protégés par des bâches s'élevaient à l'intérieur du village. Tout en avançant, Ming expliquait à Li.
Nous étions nomades autrefois et capturions des chevaux sauvages. Il nous arrivait de monter tout au nord, jusqu'au Xinjiang.
Xinjiang, c'est une province de la Chine.
Maintenant, les lois nous obligent à rester sur place, à vivre dans des villages et à élever des moutons. Ici, nous sommes à la frontière entre deux mondes. En aval, tu bascules dans le tourbillon rouge des villes. En amont, tu découvres le silence bleu glacé des solitudes.
Quelques femmes et des enfants sortirent des maisons et des tentes pour aider les hommes à diriger les bêtes vers leur enclos.
Le vieil homme mit pied à terre et Tao vint lui prêter main forte pour décharger la caisse du panda. Ils l'ouvrirent, sortirent la cage et la déposèrent devant sa cabane. Li Feng les suivit, observé par des pères d'yeux étonnés et ravis. Sitôt qu'il fut entré dans la cabane, des chuchotements, des rires coururent d'une bouche à l'autre. Une voix d'homme, ferme, tonnante, coupa court aux plaisanteries des gamins et des gamines. L'intérieur comportait des coffres peints, des lits que l'on pouvait séparer en tirant des tentures de peau. Le fond de l'unique pièce était occupé par un autel encombré de bols, de lampes, de statues de Bouddha, de moulins à prières et de photos de famille. Dans un coin, contre le mur, s'entassaient les outils pour tondre les moutons, tanner les peaux, filer et coudre. De l'autre côté, Tao avait suspendu la selle, le harnais, le fouet, son fusil et sa hache assez haut pour qu'ils ne touchent pas le sol, car l'esprit sec de la terre en hiver risquaient d'aspirer leur chaleur et par conséquent la vitalité de leur propriétaire. Enfin, près de la porte, il y avait une armoire pour les casseroles en fer, les seaux à lait en bois et tout ce qui servait à la cuisine. Des provisions de fromage, de lait caillé, de farine, de sel, de viande séchée et d'herbes étaient accrochées dans des sacs de peau. Tao pria ses hôtes de s'asseoir sur un tapis blanc brodé de motifs. Ming s'installa à sa droite, fit signe à Li de prendre place à côté de lui, la gauche du maître de maison étant la partie réservée aux femmes. L'épouse de Tao servit du lait de jument dans une jatte que chacun, à tour de rôle, porta à ses lèvres.
« Te voilà revenu !» commença l'éleveur. « Ceux d'en bas te feront-ils encore marcher longtemps ?»«
Trop, je le crains, » dit Ming. « Jusqu'au jour où mes os se briseront en route. »
Ming se tut. Regarda son neveu en face. Tao, d'un mouvement de tête, l'invita à continuer.
« J'apporte du sel, » reprit Ming, « et un petit poisson recraché par Niuqua. Peut-être ai-je eu tort de le ramener dans mon filet. »
Une bouffée de crainte envahit l'enfant. Il se dit qu'il allait être rejeté, chassé, abandonné dans la steppe au milieu des montagnes, ou alors retenu indéfiniment auprès d'eux. Une boule amère enfla dans sa gorge. Le vieil homme sentit que son jeune compagnon prenait peur. Sa main se referma sur le genou de Li Feng en un geste rassurant.
« Peut-être que non, » poursuivit Ming. « Qui sait s'il n'imprimera point ses pas dans la poussière de mes os ?»«
Tu le mènes à l'Emeishan ?» demanda Tao. « E-M-E-I, plus loin, S-H-A-N. » Tu verras plus tard ce que c'est.
C'est indispensable. Il ne pourra jamais comprendre autrement.
Comprendre quoi ?
s'interrogea Lee, mais il se garda bien d'interrompre leur conversation. Les hommes parlèrent ensuite de toute autre chose, sans tenir compte de l'enfant qui tâchait de suivre la discussion. À la longue, il se mit à bâiller et n'écouta plus que d'une oreille distraite, les paupières à demi fermées. Cela lui réchauffait le cœur de les entendre évoquer les mille et un petits détails de la vie quotidienne. La chèvre qui ne donnait plus de lait, le cheval qui boitait, le petit de celle-ci qui faisait ses dents et empêchait le voisinage de dormir, son aîné qui venait de tenir en selle pour la première fois, la demande en mariage de Zedong. En même temps, la femme s'activait dans son dos, occupée à rôtir une viande. Les voix, les bruits de la cuisine et du dehors se mêlaient, devenaient un murmure confus, un ronronnement indistinct. La tête lui tournait légèrement. Après ces jours, ces semaines, plus d'un mois d'épreuves de solitude à deux. Il eut envie de serrer le panda dans ses bras, de retrouver leur intimité perdue depuis qu'ils avaient quitté le sampan. Sa chaleur, sa douceur, sa... Les odeurs achevèrent de l'engourdir. Il entra dans une apaisante somnolence, se sentir devenir tout mou, se redressa une fois, deux fois. Il fit un effort insensé pour ouvrir les paupières, saisit un bout de phrase, puis les mots s'estompèrent à nouveau. Qu'il paraissait lointain, lointain. Sa tête roula sur son épaule. Ce fut à peine s'il remarqua qu'on le soulevait pour le porter sur un lit. Vaincu par la fatigue, il dormit d'un trait jusqu'au matin. Mais alors que le soleil poussait son rayon d'or sous la porte, des cris éclatèrent, le tirant brutalement du sommeil. « Le panda ! Le panda ! Le panda ! Il a disparu, le panda !» Fin de la première face de la troisième cassette, « Le voleur de panda » par Alain Surjet, page 104.